Interview.
1 du jour.
À l'écoute sur RDWA 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr, je suis en compagnie de Philippe Labeaune. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes le directeur artistique, le metteur en scène du théâtre du Verso, en ce moment même en résidence au théâtre de Die. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous présenter un petit peu votre théâtre, le théâtre du Verso ?
Alors, le théâtre du Verso, c'est une compagnie indépendante qui est installée à Lyon. Qui existe depuis longtemps et qui travaille, qui a plusieurs axes de travail. Le premier majeur en termes de création, c'est la défense des écritures contemporaines. On travaille beaucoup sur des textes d'auteurs vivants, plutôt de jeunes auteurs. Dernièrement et en ce moment, on travaille avec deux auteurs, l'une qui s'appelle Sandrine Roche, qui travaille à Rennes, et dont on vient de monter un texte qui s'appelle « Neuf petites filles », qu'on a créé à Lyon et qu'on va jouer à la fin du mois d'août, le 25 août, à la Mousson d'été, à côté de Nancy, à Pont-à-Mousson, dans un festival d'écriture contemporaine. Et puis l'autre auteur dont on est très proche, c'est une strasbourgeoise qui s'appelle Magali Mougel. Et là, on a créé au mois d'avril à Lyon un texte qui s'appelle Leda, le sourire en bannière. Voilà, à Lyon et Grenoble. Et puis on a un projet avec elle pour mettre en scène le dernier texte qu'elle vient d'écrire qui s'appelle Suzy Stork. Donc voilà, ça c'est la partie création, défense des auteurs contemporains.
Quand vous parlez défense des auteurs contemporains, c'est en fait par opposition à ce qu'on appelle le théâtre classique, un petit peu toutes les
pièces. Non, pas vraiment. C'est un clin d'œil. Il y a un goût particulier pour les écritures d'aujourd'hui, un goût pour aussi des écritures qui, cherchent un peu dans les marges ou sur les lisières de l'écriture dramatique. Moi, j'aime bien les écritures qui proposent des objets un peu énigmatiques dans leur construction, dans leur langage, ou la part poétique de l'écriture s'inscrit vraiment. Et c'est le cas de Magali et de Sandrine.
Et est-ce que aussi, question annexe encore, est-ce que du coup ça permet de travailler avec ces auteurs vraiment, physiquement?
Oui, bien sûr, physiquement. Enfin, ce sont des gens qu'on connaît bien. Pour l'instant, on n'est pas encore au stade d'une écriture avec elle sur le plateau, mais c'est quelque chose à laquelle on pense. Il y a d'autres auteurs, par exemple, avec lesquels on a travaillé de très près. Je pense à Sabine Tamizier. Il y a quelques années, il y a 3 ans, 4 ans maintenant, on a un projet qui s'appelait Jukebox, qui s'est déroulé sur... il y a eu deux formes successives pour lesquelles Sabine nous a accompagnés au plateau, en répétition, et a écrit à la fois en amont et en aval des propositions des comédiens. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui nous intéresse aussi.
Et pour le metteur en scène, c'est intéressant d'avoir l'auteur vivant, pas loin, pour
le consulter. Ah bah oui, c'est bien, oui. Ah, pour le consulter, moi ça m'intéresse d'avoir évidemment leur avis. Maintenant, le metteur en scène et l'équipe de création, on mène notre barque. Mais c'est vrai que il y a quelque chose d'important pour moi de parler du monde d'aujourd'hui avec la sensibilité de jeunes auteurs. Et par ailleurs, il se trouve que ces jeunes auteurs sont essentiellement féminines. Voilà. Donc on est... il y a quelque chose de... c'est pas une volonté préméditée en se disant tiens qu'est-ce qu'on va faire, ah ben on va faire les auteurs contemporains. Non, ça se trouve comme ça, c'est arrivé comme ça, c'est le hasard des rencontres et les désirs de théâtre qui rencontrent ces textes puis qui rencontrent ces auteurs.
Philippe Labonne, vous nous avez présenté le théâtre du Verso en commençant quand même par ce volet-là. Cette défense, vous l'avez cité comme ça, des auteurs contemporains. Y a-t-il autre chose ?
Oui, bien sûr. Donc le deuxième volet, si je puis dire, c'est la part pédagogique. C'est très important pour nous, le travail de transmission. Alors on a beaucoup, ça va dans beaucoup de directions. On travaille avec des lycéens d'option théâtre. On a à la fois une chance et puis un projet, enfin pas un projet, puisque c'est une chose qui est concrète, qui existe tous les jours. Notre compagnie est en résidence et est associée par une convention de résidence à un établissement scolaire, un lycée à Lyon, ce qui nous permet...
Comment s'appelle-t-il ?
Il s'appelle le lycée Belmont-Cap-de-Pont. C'est un lycée sous contrat d'association avec l'État. Et du coup, concrètement, la résidence nous permet d'avoir des locaux dans l'enceinte du lycée, à savoir un plateau de répétition qui n'est pas énorme, enfin qui nous permet de travailler. Il doit faire à peu près 90 mètres carrés, plus un bureau, plus des locaux de stockage. Donc c'est génial. Et surtout, on mène un travail de... Comment dire, la résidence, ce n'est pas simplement être dans les murs, mais travailler avec les élèves. Donc d'une part, évidemment, avec les options théâtre. Et puis en même temps, de monter un certain nombre de projets avec les lycéens. Et qui, lesquels projets sont des, comment dire, on a le souci systématique d'associer les lycéens aux comédiens professionnels de la compagnie. Alors il y a, pour l'instant, il y a deux gros projets qui se sont réalisés, mais qui sont pérennisés puisque ce sont des choses qu'on reprend d'année en année. Il y a eu d'abord un projet de voyage de création au Burkina Faso. Là, on ne l'a pas fait complètement tout seul. On a travaillé avec une autre compagnie lyonnaise qui s'appelle la compagnie Waldé et qui est très liée à l'Afrique. Et donc, on a emmené une dizaine de lycéens à Bobo-Dioulasso pour aller créer avec 10 autres jeunes acteurs amateurs burkinabés un texte de Jean-Yves Pic. Donc ça remonte à 2 ans. Voilà, ça c'est un exemple de partenariat, de création lié à notre résidence dans le lycée. Et le second, c'est quelque chose qui a eu lieu déjà 2 ans et qui, j'espère, je pense, va se prolonger là cette année. À l'occasion de la fête des Lumières à Lyon pour le 8 décembre, le lycée nous a demandé de créer un événement et donc on a ouvert le lycée. Et on a inventé un cabaret poétique dans lequel sont associés par binôme un comédien professionnel et un lycéen amateur. On a travaillé sur les textes de Rimbaud et tout un tas de chansons du répertoire à la fois rock et variété contemporain. Voilà, c'est une expérience qui est assez passionnante, qui dure... Enfin, il y a 3 jours d'ouverture publique qui s'adrainent un monde fou. On a eu l'année dernière 1200 personnes, un peu plus. Et puis, on a du coup un travail, on va dire, sur un trimestre environ. Quoi.
Oui, c'est ça, j'allais dire, c'est quand même assez court puisque les rentrées sont quand même au mois de septembre, décembre, voilà, ça veut dire un temps de préparation.
On démarre avec les jeunes, on démarre, on va dire, en octobre, novembre. Voilà, on a 2 mois de travail assez intense pour réaliser ça. Voilà, ça c'est une des dimensions de notre investissement pédagogique. Le second, je suis intervenu et je vais réintervenir l'année prochaine à l'Université Lyon 2 en art du spectacle pour proposer aux étudiants des ateliers de réalisation. Et puis la troisième dimension de ce travail pédagogique, et ça nous ramène
ici même,
ici à 10, c'est le travail que je mène avec le GEC Théâtre, donc qui est un groupement d'employeurs qui propose à des jeunes comédiens une formation d'alternance qui s'appelle le compagnonnage théâtre. L'idée est que ces jeunes gens, donc c'est un concours, il y en a une dizaine qui sont sélectionnés, je crois que cette promotion c'est neuf, et ces jeunes gens vont alterner des temps de formation et des temps d'emploi avec les compagnies professionnelles qui appartiennent au groupement. Je n'ai pas le nombre exact, mais je dirais qu'il y a une quinzaine de compagnies environ.
Donc ils vont passer sur les 15 compagnies ?
Ça dépend. Ça dépend des projets des compagnies. Hein, il y a deux dimensions.
En fait, il y a 15 compagnies qui sont enregistrées et donc elles peuvent par moment nécessiter d'avoir quelqu'un ou pas. Et
donc... Voilà. Donc, si vous voulez, il y a deux volets. Hein. Il y a le volet formation. C'est-à-dire que les compagnies, les metteurs en scène proposent en disant « Tiens, voilà, moi j'aimerais bien, je propose au GEC un stage d'une semaine, deux semaines sur Shakespeare, sur le son, sur le théâtre documentaire, sur je ne sais pas, voilà, bref. »
La régie plateau même, enfin ça peut
être... Oui, ça peut être la régie plateau, ça peut être aussi, ça peut être aussi de l'administration.
Ah oui, oui, oui. Ouais,
voilà, et donc les jeunes comédiens suivent cette formation. Et puis, les compagnies peuvent aussi solliciter le GEC en disant « Voilà, j'ai un projet. » Une création, une lecture, une mise en espace, pourquoi un tournage, pourquoi pas. Et j'aimerais bien, je les ai vus, je les connais, je les ai vus travailler, j'aimerais bien travailler alors avec un tel, ou tout le groupe, si j'allais dire le projet s'y prête. Et dans ce cas-là, on n'est plus formateur, mais employeur. Voilà. Mais exactement comme un système de formation d'alternance, je ne sais pas moi... En boulangerie, plomberie, bijouterie, voilà. C'est exactement ce même dispositif. Et donc pour ma part, enfin pour le Théâtre du Verseau, on a bon, ça dépend des promotions. C'est comme vous le disiez, c'est-à-dire qu'il y a des périodes où on a du boulot. Voilà, par exemple moi les sur la promo précédente, j'ai eu pas mal de créations. Je vous parlais tout à l'heure du spectacle de Sandrine Roche, le texte « Les neuf petites filles » qu'on a créé et qu'on va jouer là, à la Mousson d'été. C'est un spectacle que j'ai créé. Ça a commencé dans un labo de création avec la promotion précédente. Et sur les neuf comédiens qui sont sur le plateau, maintenant que le spectacle est créé et qu'il tourne, il y en a huit qui sont issus du compagnonnage. C'est-à-dire qu'on est vraiment passé... d'un temps de formation, on va dire, à un temps d'emploi. Et en l'occurrence, là, sur ce projet-là, c'est quelque chose qui s'étale maintenant sur 2 ans. Alors, je ne sais pas ce que deviendra le spectacle, s'il va tourner encore, mais c'est possible. Et donc, du coup, on continue. Alors, ils ne sont plus du tout compagnons maintenant, ils sont sortis, cette promo-là. Ouais,
et vous avez même créé une compagnie, quoi, du coup.
Bah non, on n'a pas créé une compagnie. Enfin, puisque
eux, ils vont se créer si, ah bah, alors,
là, quoi. Là c'est assez fréquent. Je n'ai pas l'historique, mais il est assez fréquent que dans les promotions, parce que là, on doit être à la 5e ou 6e promotion. Donc, c'est une formation qui dure 2 ans. Enfin, c'est un dispositif qui dure 2 ans, qui s'étale sur 2 ans. C'est très fréquent que, alors pas forcément tous les groupes, hein, les groupes complets je veux dire, mais qu'il y ait parmi eux des gens qui, par affinité finalement, se disent « allons, créons notre compagnie ». Donc de mémoire, je ne sais pas, mais il y en a quand même un certain nombre d'anciens compagnons qui ont créé leur propre compagnie.
Mais dans le cadre du spectacle là, dont vous parliez là, est-ce qu'il va tourner 2 ans dans le cadre de la formation?
Ah non, là on est ce que je vous expliquais, on est hors formation. Ouais. Moi, je vous donnais cet exemple-là parce que d'abord je le connais et puis surtout il est assez parlant. On a commencé ce projet un peu comme ce qu'on fait ici à Die. Le GEC m'a proposé une semaine de formation, enfin sous une forme de laboratoire de création. Donc vraiment une espèce de carte blanche pendant une semaine pour fabriquer quelque chose. Moi, je suis parti sur ce texte-là, et au bout d'une semaine, c'est vrai qu'on a fabriqué un objet qui était assez étonnant. Ça nous a donné envie d'affiner. On s'est retrouvés tout à la fin de leur cycle de 2 ans, où on a retravaillé le truc, et puis on avait un objet qui était, bon, pas fini, mais qui ressemblait quand même à quelque chose. Et là, on a trouvé des partenaires pour financer la création. Et donc, eux avaient terminé leur formation. Ils étaient, comme on dit, sur le marché du travail, intermittents pour la plupart. Et donc, voilà. Du coup, ils n'étaient plus compagnons. Ils étaient comédiens comme des grands. Et donc,
on peut lancer la machine.
On peut lancer la machine, voilà. Et c'est toujours, ça tourne encore. Voilà.
Philippe Labeaune, parlez-nous de ce vivier de jeunes, justement. Là, quel est l'intérêt pour vous, là, metteur en scène, directeur artistique,
d'une
compagnie presque reconnue? Vous pourriez faire venir n'importe qui, finalement, non?
Oh bah, n'importe qui, à hauteur des moyens dont on dispose, qui sont pas
bon, alors d'accord.
forcément immense. Non, je ne ferai pas de spectacle avec Charles Berling ou avec Francis Huster, ça c'est sûr. Mais pas forcément que pour des raisons économiques.
Ça c'est fait.
Voilà. Non, mais je donne des exemples comme ça. C'est le premier nom qui me sont venus dans l'esprit. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui.
Sur le vivier.
Sur le vivier. Bah, donc pour moi, en tout cas, très subjectivement, c'est assez génial parce que bon, moi j'ai cette passion de la transmission, donc travailler avec des jeunes comédiens et essayer de leur faire découvrir un univers particulier qui est le mien. Hein. Je crois que c'est ça qui est bien aussi dans la formation du compagnonnage, c'est que les employeurs, enfin les professionnels qui se réunissent pour travailler avec ces jeunes comédiens sont des gens extrêmement différents. Il y a des univers théâtraux qui sont très très différents. Et ça, je trouve que c'est génial parce que du coup, eux, ça leur permet de découvrir. Alors, bon, y a des choses qui leur sont plus familières, plus proches, des choses qu'ils ne connaissent pas du tout, des univers très, très, très nouveaux et très singuliers pour eux. Donc ça, c'est très bien. Et donc moi, je veux dire, c'est du petit lait pour moi d'avoir, là, en l'occurrence, ils sont 8 jeunes gens que j'essaie d'emmener.
Archi motivés, surtout.
Ouais, ils sont très motivés. Et puis, voilà, je crois que moi, j'ai cette passion de la transmission et que bah, la passion, c'est relativement facile à... Ça transpire de partout, donc voilà, c'est contagieux. Donc ça, c'est la première chose. Et puis... oui, moi je participe, alors ça suivant les années, quand on est plus ou moins dispo, moi j'ai participé, mais comme tous les metteurs en scène du GEC, à la sélection, hein, au concours. Donc c'est vrai qu'on donne notre avis, qu'on dit voilà, moi celui-là j'aimerais bien travailler avec lui, etc. Bref, et c'est vrai que sur les 8, moi j'ai très, très vite eu un certain nombre de coups de cœur. Je les trouve tous très bien. C'est aussi une chose qui est chouette, c'est que on découvre aussi à mesure des gens qu'on n'avait pas forcément bien vus ou voilà, bien repérés sur les temps du concours, etc. Donc on les voit en travail et puis on se familiarise avec eux. Et non, c'est très très chouette. Après, eux aussi amènent leur singularité. C'est ça qui est bien aussi parce que d'une certaine manière, on ne les choisit pas. Hein, c'est pas comme une distribution, on va dire, voilà.
Mais c'est pas le casting.
Voilà, on fait 100%, pas, voilà. Ouais. Et du coup, ça amène une part d'altérité qui est très nourrissante aussi pour moi. Voilà, parce que bon, les comédiens avec qui je travaille habituellement, je sais pas, il y a une espèce de petite demi-douzaine de ce que j'appelle les gens de la famille, quoi, ouais, de la compagnie.
Vous connaît on se connaît
bien. Je veux dire. Ils savent comment je pense, comment je parle, comment je ressens les choses, moi aussi. Donc souvent,
c'est presque l'habitude du vieux couple, c'est ça?
Non, non, je dirais pas l'habitude du vieux couple. Ça serait plutôt, qu'est-ce qui me viendrait comme métaphore? Plutôt les bons partenaires de tennis, par exemple. Ouais. Voilà, on aime bien, on est différents, mais on aime bien jouer ensemble. Et à la fin,
ça veut dire qu'on se fait toujours les mêmes combinaisons quand même pour ce.
Ah,
que ça
dépend. Les bons joueurs, ils mettent du piment, ils inventent des trucs.
Ah, quand même.
Ouais.
Non, je veux pas du tout opposer le vivier ou la jeunesse.
Non, mais voilà, c'est vraiment. Enfin bon, voilà, moi je suis très très enthousiaste de ce dispositif. Ça fait maintenant. Moi, ça fait à peu près 4, c'est la 4e promotion avec laquelle je travaille. J'ai beaucoup travaillé avec les deux promotions précédentes et je peux dire vraiment que très honnêtement, maintenant avec la distance, je peux dire que ce travail avec le GEC a vraiment infléchi la façon de travailler, même parfois des choix esthétiques. Enfin, ça marche dans les deux sens. Voilà.
Pouvons-nous connaître maintenant la patte Philippe Labeaune en tant que metteur en scène ? C'est quoi votre univers ?
Oh là là.
En dehors d'aimer les textes contemporains, d'aimer transmettre.
Alors, que dire ? C'est toujours difficile de parler de son travail. C'est toujours mieux quand c'est les gens de l'extérieur, même s'ils émettent des réserves. Ou
des critiques acerbes.
Des critiques, oui, c'est toujours mieux. Je sais pas, moi je dirais que je suis sensible à un théâtre de poésie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, théâtre de poésie ?
Pragmatiquement, est-ce que vous utilisez beaucoup de décors, de fioritures pour l'ambiance ?
Non.
Voilà,
non,
par
non.
exemple.
C'est un théâtre
épuré.
Assez minimaliste, oui. Assez minimaliste, mais qui... Enfin, J'ai deux...
Donc, c'est le texte, la voix, la parole qui est portée.
Oui, mais aussi beaucoup l'imaginaire. Pardon. Beaucoup l'imaginaire, c'est... Moi, je travaille énormément avec les acteurs et je travaille avec leur sensibilité, avec ce que eux apportent sur le plateau. Pour moi, l'acteur, il est largement autant créateur que le metteur en scène ou l'auteur, ou l'éclairagiste ou le sondier. Donc, c'est un théâtre de poésie, c'est un théâtre de sensation, je crois. Un théâtre de sensibilité. Ça ne veut pas dire que c'est pas un théâtre, que ce serait un théâtre qui ne pense pas, mais c'est vrai que mon penchant naturel, c'est quand même de faire confiance à la rêverie et au sensible. C'est-à-dire que ce sont des spectacles généralement qui demandent une forme de lâcher prise au spectateur.
De se laisser porter par...
De se laisser porter, de ne pas vouloir tout comprendre, parce que d'abord, tout ne se comprend pas. En tout cas, tout ne se comprend pas avec la raison résonante. Et du coup, ben voilà, ça m'amène à fabriquer des... Je dis toujours que j'ai un peu de versant dans mon travail. Il y a un versant assez austère. Je reconnais, un peu janséniste, un peu... Voilà. Et puis, un versant beaucoup plus baroque. Je ne sais pas si ça parlera aux auditeurs, parce que souvent, c'est une référence cinématographique que je fais, parce qu'il y a deux cinéastes ex-soviétiques que j'adore, et qui sont l'un Andrei Tarkovsky et l'autre Sergei Parajanov. Et je dis souvent que j'ai un versant Tarkovsky et un versant Parajanov. C'est un versant, on va dire, assez austère. Et puis un versant beaucoup plus baroque, beaucoup plus... et même en termes de montage, il y a un versant où des spectacles où le temps est très, très étiré. Et puis d'autres, au contraire, où on est sur un rythme de montage très, très soutenu, où on ne peut jamais tout voir parce qu'il se passe tout le temps quelque chose, même plusieurs choses en même temps, dans tous les sens. Et voilà, je ne sais pas si ça parlera aux gens qui écoutent, mais c'est un peu ça, un théâtre de poésie qui parle au sens, qui parle à l'imaginaire, qui parle au goût pour la rêverie, je crois. Et un théâtre, donc, bon, c'est un peu une tarte à la crème parce que beaucoup l'ont dit, mais ça me paraît vrai. C'est un théâtre qui croit que le spectacle, il est dans la tête du spectateur et pas sur le plateau. Voilà. Ou qu'en tout cas, il y a quelque chose qui se joue vraiment dans l'individu présent, assis dans la salle, et ça se joue dans sa tête. Pour moi, le théâtre est un crâne. Voilà.
Est-ce que c'est aussi la position que vous prenez quand vous êtes metteur en scène ? Vous êtes toujours assis au milieu à essayer de voir si ça prend, ou est-ce que vous êtes de ces metteurs en scène qui sont sur la scène, devant ?
Oh non, 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 moi je vais pas sur le plateau. Je vais pas sur le plateau. J'essaye d'imaginer des protocoles de travail. qui, comment dire, j'essaie de chercher une autre métaphore. Voilà, c'est un peu comme un terrain de jeu. Pour moi, préparer une répétition, préparer une création, c'est délimiter un espace de jeu, comme si je plantais des piquets dans un, ou je délimite un bac à sable, voilà. Et je propose à côté, au bord du terrain de jeu, un certain nombre de matériaux. Ça peut être des objets, ça peut être des images, ça peut être des sons, ça peut être des textes, ça peut être des matières, des métaphores. Donc je propose ça aux acteurs qui s'en emparent. Je travaille beaucoup sur l'improvisation. Et à partir de là, donc c'est un dialogue. Moi, j'envoie une première balle. Eux me répondent. Je réponds à leurs réponses. Et à mesure, on construit quelque chose ensemble qui n'est pas prémédité, pas plus prémédité que... Je suis un metteur en scène sans imagination, j'ai envie de dire. Je ne sais pas à l'avance ce que ça va être.
Donc c'est vous qui cherchez le rêve, c'est bien ce qu'on entend alors.
C'est ça, oui. Ouais. Donc c'est un état assez agréable pour le metteur en scène quand tout se passe bien et qu'il n'y a pas d'angoisse et de stress extérieur. C'est le meilleur moment, c'est quand même le moment de la répétition. C'est un moment extrêmement privilégié. La représentation, c'est déjà une autre histoire.
Écoutez, Philippe Labonne, je pense qu'on a bien compris votre tarte à la crème. Hein. C'est pas mal pour quelqu'un qui ne savait pas s'il pouvait parler de son métier. Le Théâtre du Verso, vous-même, aujourd'hui, cette semaine, au Théâtre de Die, donc, pour faire quoi ? On a commencé à le comprendre. Est-ce que vous pouvez nous décrire maintenant vraiment ce que vous réalisez là, ici ?
Alors, on est donc en résidence au Théâtre de Die.
Et avec le GIEC.
Avec le GIEC, voilà. Ouais. Alors, si vous voulez, là, j'interviens comme formateur. donc, on a 10 jours de résidence ici. C'est déjà assez génial parce qu'il est super, ce théâtre. Moi, je ne connaissais pas. Et voilà, donc il y a un gros merci à dire au Théâtre de Die, à l'équipe, à Isabelle Catois... voilà, qui nous mettent cet outil à disposition. En gros, on a les clés, quoi. Voilà, et ouais. On travaille. Donc ça, c'est génial. Alice Azad-Kanyan, qui est la coordinatrice du GIEC et qui connaît bien je me trompe de capitale.
Et puis attention, ici, des fois, ça peut...
Ouais. Qui connaît bien Die, nous a préparé un séjour aux petits oignons. Enfin, voilà, moi, je suis là depuis dimanche. Les comédiens sont arrivés hier et... Voilà, c'est super, il n'y a que la météo, mais voilà, c'est très très bien. Donc, on est ici en résidence, au Théâtre de Die, et donc c'est ce que j'appelle un labo de création. J'en ai un peu parlé tout à l'heure. Il y a donc 8 jeunes comédiens compagnons, 4 garçons, 4 filles, qui sont là. Alors, moi, je viens avec une proposition. En l'occurrence, il s'agit d'un texte de Fernando Pessoa. Alors là, pour le coup, on n'est pas dans du contemporain. C'est un texte qui date de 1913, qui s'appelle Le Marin, qui est un des rares textes de théâtre que Pessoa a écrit, puisqu'il a écrit un Faust, mais qu'il n'a jamais terminé. Voilà, c'est le projet, c'est en 10 jours de voir ce qu'on est capable de fabriquer comme objet scénique. Voilà. Le 17 juillet à 21h, il y a donc une ouverture publique, une représentation.
Voilà, parce que ça, c'est le contrat résidence quand même. Il faut qu'on voit quelque chose à la fin.
Donc il va y avoir, osons un gros mot, il va y avoir un spectacle. Voilà. Je ne sais pas à quoi, je ne sais pas du tout, on a commencé hier, donc je suis bien incapable de vous dire à quoi ça va ressembler. Mais donc le 17, rendez-vous le 17 à 21h, il y aura quelque chose à voir et à entendre, ou à entendre, on verra.
Ou à subir.
Oui, on espère quand même que les gens viendront, que ça ne sera pas...
Mais vendez-le mieux comme ça, là, Philippe, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Si vous me demandez de vendre des choses, alors là, ce n'est pas mon métier.
Mais une sortie de labo de création par expérience, c'est souvent des trucs qui sont quand même très étonnants, des objets qu'on ne retrouvera pas ailleurs.
Oui, c'est vrai, bien sûr, non mais C'est certain, ça c'est vrai, vous avez raison. D'abord parce qu'on a absolument toute liberté, c'est-à-dire qu'on n'a pas la pression de production de se dire il faut un spectacle qui marche, machin, etc.
Oui, que les gens achètent les places et tout, alors voilà. Tout le monde vient exprès pour.
Donc là, effectivement, ça va être un objet très, très singulier. Enfin, que voilà, c'est que qu'on ne verra qu'une fois. Qu'on ne verra qu'une fois. Donc, précipitez-vous si vous voulez le voir.
Voilà.
Il faut venir le 17 juillet à 21h. Pour en dire un peu plus, peut-être, donc ce texte de Pessoa qu'on va trouver sous l'étiquette théâtre, c'est pas vraiment du théâtre, on va dire que c'est une sorte de poème dramatique. Pour situer le truc, Pessoa a sous-titré son texte « Drame statique ». Donc c'est un texte de 1913, bon là je fais un petit truc,
rappel
un
peu d'histoire.
D'histoire littéraire, 1913, ce texte-là est très marqué par le théâtre symboliste et en particulier par le théâtre de Maeterlinck. C'est un texte qui fait beaucoup penser aux aveugles, par exemple, de Maeterlinck. Mais il y a aussi des choses qui font penser, je pense à un texte de Rilke que j'ai mis en scène il y a quelques années qui s'appelle « La princesse blanche ». Voilà, ça fait un peu penser à ça. Donc c'est un théâtre de parole, d'une parole poétique. C'est un théâtre, j'ai envie de dire, sans action. Alors, ça va être terrible ce que je vais dire, c'est sans action, sans personnage, sans intrigue, sans psychologie. Alors, qu'est-ce qui reste ? Il reste le texte. En deux mots, il y a quand même une situation. Donc, on a trois veilleuses, trois femmes, qui veillent un corps. Il y a donc une jeune femme qui est étendue, morte, et elles sont là, elles veillent le corps. Et elles se mettent à parler. On comprend assez vite que cette parole est là pour combler un silence, pour lutter contre un silence, pour lutter contre une angoisse qui monte liée à cette présence objective devant elle de la mort. Et je la fais rapidement, elle commence à se raconter leurs rêves. Et en particulier, il y en a une qui raconte un rêve qu'elle a fait, qui s'appelle le rêve du marin. Et l'histoire est donc celle d'un... L'histoire de son rêve, c'est l'histoire d'un marin qui échoue sur une île déserte, donc qui est complètement isolé, et qui, pour justement combler l'attente, combler la solitude, se met non pas à se souvenir de sa vie passée, mais à en rêver une autre. Donc il se fabrique par le rêve.
Donc c'est un rêve dans un rêve dans un rêve.
C'est exactement, c'est un rêve dans un rêve dans un rêve. Et qui se met donc à s'inventer par le rêve une autre vie. Et il l'invente tellement bien, il la rêve tellement fort qu'il finit par oublier sa première vie, sa vie originelle. Et au moment où il se dit « mais je suis dans un rêve, il faut que je me rappelle de ma vie », il ne peut pas. Il ne peut pas. Voilà. Et au bout d'un moment, d'ailleurs, donc ce récit se déploie et les veilleuses se mettent à se demander si elles ne sont pas elles-mêmes rêvées par le marin. Voilà. Donc, il se passe rien d'autre que ça. C'est une langue extrêmement, extrêmement belle, extrêmement simple. Et donc, nous, on va essayer de travailler cette matière-là. Il y a trois personnages, mais au fond, c'est à la fois une seule voix et un chœur. Donc, il y a une polyphonie. Du coup, on a déployé la parole en huit voix, puisqu'il y a huit comédiens. Et ce qu'on va tenter de faire, ça, c'est le projet, on est au jour 2, donc je ne sais pas où on ira avec ça, c'est d'essayer de... comment dire, d'explorer une forme oratorio, c'est-à-dire qu'il y aurait la parole détachée des corps, pour faire simple. Ou si vous voulez, une bande son, ou une bande voix, une bande texte, et une bande image qui soit disjointe mais superposée. Voilà,
Par exemple, les comédiens pourraient déclamer ce qu'un autre corps ferait.
Oui, et sans carrément forcément être dans l'illustration.
Eh ouais.
Voilà. Et alors le projet, mais alors là vraiment, on prie pour que la météo s'arrange, c'est de travailler sur le rapport entre l'intérieur et l'extérieur, c'est-à-dire que ce qui est prévu, je ne sais pas où ça ira, mais ce qui est prévu, c'est de couper les journées en deux, de travailler par exemple l'après-midi au plateau, donc le texte, de manière un peu... comment
académique.
Dire, pointu, détaillé, etc. Et puis, la soirée, en extérieur, dans la campagne, dans les bois et les prés, où, toujours avec le, comment dire, l'alibi du texte, on irait explorer le rapport à la nature, le rapport sensuel, sensible à la nature, et voir comment ça, ça peut se ramener à l'intérieur, et fabriquer ce que j'appelle, pour moi, la bande image. Voilà. Ça, c'est le projet. Maintenant, il faut juste qu'il arrête de pleuvoir, et ça sera parfait.
Et vous êtes tombé un peu au moment étonnant, mais je pense que ça n'a pas duré. Hein. Isabelle Catois, qui a été citée dans cette interview, est chargée de l'action éducative, enfin de la sortie de ce que propose en tout cas l'association Est-Ouest ou le Théâtre de Die à travers ses résidences avec l'extérieur. Bon, là, la cité scolaire du Diois est fermée. Est-ce qu'il y a, dans le cadre de votre résidence, aussi des propositions qui vont être faites pour le territoire ou pas?
C'est pas prévu. A priori, non.
D'accord.
Après, moi, je suis toujours très... Bon, comment dire, je suis toujours très, très preneur d'ouvrir le travail et de montrer comment ça s'élabore aux gens. Mais il faut du temps. Il faut du temps, il faut rencontrer les gens, il faut leur expliquer, il faut qu'eux aussi traversent les choses, qu'ils ne restent pas... purement spectateur, comme devant un vivarium où il verrait des bestioles en train de faire des choses étranges sur un plateau. Donc, et là, en l'occurrence, sur 10 jours, c'est beaucoup trop court. Mmh. Il faudrait qu'on ait beaucoup plus de temps pour pouvoir rencontrer les gens. Voilà. Mais c'est quelque chose, moi, auquel je suis très sensible. Ça.
Et ou même en termes de stage, comme ça, accéléré sur un public complètement lambda qui serait volontaire. Enfin, ils le font des fois, par exemple... tel metteur en scène sur tel type de technique va prendre les gens pendant un certain stage pour voilà.
Oui, moi ce sont des choses qu'on a l'habitude de faire. Je donne un exemple. Bon, c'était très limité, mais c'était assez intéressant quand on est allé créer le texte de Magali Mougel là, au mois d'avril à Saint-Martin-d'Hères, à côté de Grenoble, avec l'équipe du théâtre, on avait proposé au public, en amont, mais alors vraiment, quand je dis en amont, ça ne pouvait pas être plus en amont, c'était genre une heure ou une heure et demie avant la représentation, pardon, un atelier de lecture à voix haute. Et donc, à chaque fois, il y a eu une dizaine de personnes qui sont venues, et pendant une heure et demie, je suis venu avec une page du texte. Et je leur ai fait travailler tout bêtement la lecture. C'est très simple et c'est absolument passionnant, je crois, pour eux, parce que j'ai l'impression que, enfin, j'ai pas l'impression, j'ai la certitude que quand pour un spectateur, le texte l'a déjà traversé, même si c'est une page, même si c'est pendant une heure et demie, il y a quelque chose d'extrêmement différent dans son rapport au plateau quand il est dans la salle. Il y a quelque chose qui lui appartient et en même temps qu'il partage de manière assez unique avec les comédiens. Cette page-là, quand elle va arriver, quand elle va être dite, eh ben, lui aussi, il l'aura traversée. Et ce moment-là, alors c'est très court, mais je trouve que c'est sur un temps très réduit, c'est extrêmement parlant de comment on peut aider le spectateur à trouver sa place.
Et à devenir complètement complice du truc. Là.
Ben, exactement.
Pour le coup, il peut pas,
ouais. Voilà. Ouais.
Ah, c'est pas mal ça comme... Philippe Labaune, donc, Théâtre du Verso, en ce moment même au Théâtre de Die, avec une sortie de résidence, enfin une sortie de laboratoire, hein, jeudi, le 17 juillet, voilà.
Et je crois bien que c'est un jeudi.
C'est un jeudi, si, bah alors bon, très bien, oh, bravo. Merci. Est-ce que vous voudriez nous donner, si vous les avez, les coordonnées du GEC c'est facile à trouver pour des gens
alors,
qui
le,
se diraient,
le,
tiens,
oui, oui. Vous, alors, c'est basé à Lyon.
Par le biais de Lyon 2, justement ?
Non, non, ça n'a rien à voir avec l'université. Hein. Y a un site, je crois qu'on tape GEC Théâtre, donc GEC, c'est GEIQ, groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification, je crois que c'est ça, Théâtre. Donc GEIQ, Théâtre, y a un site. Voilà, et le GEC, enfin maintenant ils ont des bureaux juste à côté, mais ils sont associés à un théâtre qui s'appelle le Nouveau Théâtre du 8e à Lyon, donc qui est dans le 8e arrondissement à côté du boulevard des États-Unis. Voilà.
Est-ce que vous voulez nous parler de ce qui se passe en ce moment avec les intermittents ? Est-ce que vous avez une petite pile à mettre encore ou une...
si, je peux vous en parler, mais je ne suis pas forcément le bon. Mais avant ça, il y a quelque chose que j'aimerais bien faire. C'est parce qu'on dit Philippe Labonne, tout ça. Mais il y a quand même 8 comédiens.
Remercier d'autres gens.
Voilà. Ah. Non, mais je voudrais dire leur
les
nom.
Les présenter. Oui.
Je voudrais dire leur nom. Bah voilà, parce qu'on a l'impression, quand on présente le truc... Ouais, c'est des petits jeunes en formation et que voilà. La particularité du GEC, c'est de recruter des jeunes gens qui ont déjà, pour beaucoup, une expérience. Il y en a certains qui ont déjà été intermittents, par exemple. Hein. Donc voilà, je voudrais dire leur nom. Donc il y a 4 jeunes femmes. Coralie Leblanc, Pauline Bertani, Claire-Marie Davaux et Clémentine Arrault. Voilà, je ne me suis pas trompé. Toutes les 4 et 4 garçons, Emmanuel de Montsant, Vincent Poudrou, Valentin Dillas et Fabrice Henry. Voilà les 8 qui viennent de toute la France. Il y a des Parisiens... Il y a un Toulousain, il y a une comédienne qui vient de Tours, une autre qui vient de Lyon, une qui vient de Nancy. Voilà, donc c'est des gens qui se sont retrouvés, qui forment un groupe. Il y a un an, ils ne se connaissaient pas. Et voilà. Donc c'était important de donner leur nom et puis de souligner, j'ai parlé d'elle tout à l'heure, mais le super boulot que fait la coordinatrice Alice Azad-Kanyan. Et qu'elle fait avec le GEC, c'est épatant. On est chouchouté, dorloté. On arrive pour bosser dans des conditions épatantes. Voilà, c'est
très bien. On met ses petits chaussons et on va au boulot.
Voilà, c'est ça. Et maintenant sur les intermittents, je vais rien dire de bien extraordinaire. Que c'est une situation qui est quand même grave. Je crois que la première chose, c'est que ça ne concerne pas que les intermittents, ça concerne tous les précaires, c'est-à-dire tous les gens qui bossent en CDD, qui font de l'intérim, les saisonniers, etc. Voilà, moi j'ai l'exemple de quelqu'un que je connais qui a enchaîné les CDD et qui n'est pas renouvelé et qui se retrouve, je ne sais plus exactement le chiffre, mais c'est avec un délai de carence de plus de 6 mois et une prime de 800 euros pour tenir 6 mois. Voilà, ça c'est une réalité concrète. Et ce n'est pas un intermittent
du spectacle.
Et ce n'est pas un
intermittent, oui.
Donc ça c'est extrêmement important de dire pour les gens que, évidemment, le statut de l'intermittent n'est qu'un statut. Enfin, je veux dire, ce n'est pas un métier. Ces gens sont des artistes, des créateurs. Que c'est pas un statut privilégié, loin de là. Là encore, j'ai pas les chiffres parce que je suis pas un spécialiste de la question, mais on sait très bien autour de nous que 80% des intermittents vivent avec des sommes ridicules, quoi. Mmh. Voilà. Et que surtout, voilà, c'est une question qui touche tout le monde. Et les intermittents ont cette chance de pouvoir se fédérer autour de la CGT ou autour des coordinations. Et c'est vrai que le problème, c'est que les
Les autres précaires.
Tous les autres précaires, ouais. Il n'y a pas de structure. Mmh. Voilà, d'ailleurs, c'est très solitaire, hein, ces histoires de CDD, d'intérim, etc., de saisonnier. On avance comme on peut, on pousse son ballon devant soi comme on peut.
C'est d'ailleurs pour ça qu'on a vu les intermittents manifester, parce que c'est plus facile pour eux peut-être de se rassembler là où ils n'étaient pas suivis par les autres.
Ouais. Tout à fait. Voilà. Après, pour le reste, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, moi, je suis... Comme on dit, je suis pessimiste en pensée, optimiste en action, mais c'est vrai que je me fais guère d'illusions et j'ai guère d'espoir sur ce qui se profile. Hein, c'est un peu de pire en pire, quoi. Voilà.
Pour la culture, en tout cas.
Oui, pour la culture et puis pour la vie des gens en général.
Ouais. Les précaires d'aujourd'hui... les précaires qui ne le sont pas aujourd'hui pourront l'être demain, une fois qu'on aura fait sauter cela.
Et en même temps, par rapport à ça, moi, je suis le porte-parole de rien du tout. Hein. C'est ma parole. Mais il y a une chose à laquelle je crois, c'est que... Il ne faut surtout pas, le pire, ça serait de, socialement ou individuellement, de glisser dans une spirale dépressive. Je crois qu'il faut, fabriquer du désir, animer son désir, il faut désirer très fort ce qui nous arrive tous les jours. Je pense que et le désir, ça fabrique de la création. Des formes nouvelles, des rapports nouveaux entre les gens, voilà. Et que ça me paraît extrêmement, extrêmement important. Il ne faut pas tomber dans l'amertume, il faut se bagarrer avec la banane, quoi. Ce n'est pas le couteau entre les dents, mais c'est aussi le couteau, mais le couteau, du coup, ça donne le sourire.
Ça peut faire mal aux lèvres, quand même, le sourire.
Ça dépend dans quel sens vous mettez le couteau.
Voilà, et puis du rêve, de la création bien sûr, du rêve et de l'émotion. Philippe Labeaune, merci.
Merci à vous.
La présentation de votre travail, et de vos comédiens, et de ce qui se passe en ce moment au Théâtre de Die avec votre compagnie, le Théâtre du Verso, donc, qui était à Lyon. Merci encore. Et
merci
puis,
à vous.
Rendez-vous le 17 juillet.
Très bien,
c'était
vous attend.
Quelle heure déjà?
21h.
21h.
Au Théâtre de Die, et c'est entrée libre, je pense. Enfin,
oui, tout à fait, voilà. C'est ça. Ouais. Sur un texte, Le Marin.
Le Marin de Fernando Pessoa, qui est... Bon, j'ai pas parlé de Pessoa, mais c'est un immense auteur, voilà.
Interview. Ok, de bird. L'interview du jour.